finalement qui fait la substantifique moelle de la géographie, on va dire.
Louise Cuneo, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce hors-série, La France et sa géographie? Racontez-nous un petit peu.
Alors d'abord, on découvre que la géographie, elle est partout. Elle est dès qu'on se pose la question où se passe quelque chose, eh bien c'est déjà de la géographie. Donc la géographie de la France, eh bien, on va découvrir tous ses secrets et tout ce qu'elle cache. Alors il y a évidemment toutes les cartographies qu'on propose dans ce hors-série. Il y a une soixantaine de cartes à peu près pour découvrir le territoire et les reliefs de la France. Mais il y a aussi la manière dont on fait une carte. C'est très intéressant de savoir que, par exemple, l'IGN reconstitue intégralement et remet à jour toutes ses cartes tous les 3 ans en survolant le territoire pour découvrir les nouveaux bâtiments, les nouveaux chemins. Et on peut découvrir tout ça en se mettant maintenant sur les chemins puisqu'on est déconfiné et qu'on peut repartir sur les routes.
Alors selon Le Robert, la géographie c'est la science qui a pour objet la description de l'aspect actuel du globe terrestre au point de vue naturel et humain. Pour l'écrivain Sylvain Tesson, hein, géographe de formation, la géographie est la plus littéraire de toutes les disciplines scientifiques. Et pour Jean-Robert Pitt, président de la Société de géographie, eh bien pour lui, la géographie, il faut se poser la question du où. La géographie explique pourquoi les choses sont ici et pas à côté. Et pour vous, Perrine Michon, comment présenteriez-vous votre discipline? Quelle est votre définition personnelle, intime de la géographie?
Alors, il me semble que la géographie, elle s'intéresse effectivement à l'environnement qui nous entoure, mais sans le prendre comme un objet extérieur à nous-mêmes. Ce qui va intéresser la géographie, c'est le lien justement que individuellement ou collectivement, on construit avec cet environnement, que ce soit des liens matériels, des liens plus immatériels, d'ordre culturel, gastronomique par exemple. Et donc la géographie va s'intéresser à tous ces liens, à tous ces interrelations qui au fil du temps se sont construites, sédimentées entre les habitants d'un territoire et ce territoire, et ce à différentes échelles.
Perrine Michon, vous dites qu'être géographe, c'est une manière d'être.
Oui, parce que alors peut-être avec l'âge, on s'en rend un peu plus compte. Mais voilà, finalement, on n'est pas géographe juste de 8h du matin à 5h du soir dans un bureau. Être géographe, c'est aussi un regard que l'on porte et que l'on pose sur le monde, et qui se construit, qui s'enrichit au fil des années. C'est pour ça que je dis peut-être avec l'âge, on savoure de plus en plus l'épaisseur. Mais c'est voilà, c'est vraiment construire ce regard et faire que on n'est pas juste posé dans un décor, on est en interrelation avec l'espace dans lequel on se trouve.
Louise Cuneo, les Français sont passionnés par l'histoire. Sont-ils également passionnés par la géographie française?
Alors je pense qu'ils ne le savent pas, mais ils le sont en réalité, parce que dès qu'on part en vacances, on aime partir découvrir des nouveaux coins, on ne refait pas tout le temps les mêmes chemins. Voilà, moi j'ai été étonnée en découvrant la géographie, parce que je pense que je l'ai découverte en faisant ce hors-série. Il y a des choses qui ne paraissent pas du tout évidentes et qui sont même amusantes à découvrir, au-delà des paysages. Est-ce que vous saviez par exemple, Annick, que ce n'est pas la Seine qui coule à Paris?
Oui, je savais, c'est Lyon, je crois.
C'est Lyon, absolument, absolument. Mais en fait, c'est quelque chose que beaucoup de Parisiens, à mon avis, ne savent pas. Et il y a comme ça des petits secrets et des petites découvertes qu'on peut glaner en se plongeant vraiment dans la géographie de la France.
Guimetto Dissino.
Mais je veux pas généraliser, mais moi, à mon époque, ma professeure, enfin l'une de mes professeurs d'histoire géographie, parce qu'évidemment, on apprenait les deux en même temps, n'avait aucune relation sensuelle avec la géographie. Elle était très très diserte sur l'histoire, mais du coup elle ne m'a donné aucune passion pour la géographie. Pour moi c'était une matière sèche qui ne réagissait pas du tout avec justement avec la vie quotidienne, qui ne me plaçait pas dans les décors, et je n'ai pas développé d'amour pour la géographie. Et d'ailleurs en lisant ce hors-série, je me suis aperçue à quel point j'aimais ça, mais je n'ai pas aimé ça à l'école.
Louise Cuneo.
Mais oui, parce qu'en fait, à l'école, on apprenait la litanie des départements, mais c'était ça la géographie. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Il y a des profs de géographie qui utilisent le Vendée Globe pour découvrir le monde.
Aujourd'hui, j'aurais bien aimé.
Et moi donc, et c'est tout. l'approche de la géographie aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle d'avant. Et aujourd'hui, ça peut être réellement passionnant avec, en enseignant la géographie à travers toutes les autres disciplines, puisque la géographie est partout. C'est un formidable tremplin pour sortir de la liste des départements qu'on apprend d'ailleurs plus du tout à l'école.
Périne Michon.
Oui, alors il me semble que là, vous touchez...
Ah, on va vous retrouver dans quelques instants.
Non, enfin, j'ai touché un truc.
Périne Michon, Grégory Cohen, vous vouliez intervenir.
Ah oui, alors moi, à l'école, ça a été complètement l'inverse de Guillemette. Moi, j'avais un professeur d'histoire-géographie qui s'appelait Monsieur Barenton, et c'était exceptionnel parce qu'en fait, il nous faisait découvrir la géographie par l'histoire, les conquêtes, les guerres. La topographie, comment est-ce que, ben là on parle de Napoléon en ce moment, comment est-ce que Napoléon étudiait les territoires pour positionner son armée, et puis comment est-ce qu'on définissait les frontières, c'était des frontières qui bougeaient en fonction de, on a gagné telle guerre, on a perdu tel territoire, donc moi j'ai eu une passion mais incroyable.
Ouais, c'était carrément de la géopolitique ça, oui.
Non, ouais, c'était vraiment de la géographie, ça fonctionnait comme ça. Et j'ai même eu une anecdote un jour de ce prof-là qui nous avait dit que certaines frontières étaient tirées à la règle et que parfois, quand on regarde les frontières, on voit un petit écart dans la règle, c'est parce que la règle était abîmée. Et donc, quand ils l'ont tirée... Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas.
Thibaut de Saint-Maurice, votre rapport à la géographie
Oui, il y a un rapport scolaire, bien sûr, mais ce qui est fascinant aussi, c'est la géographie comme le domaine des cartes. Et alors il y a ces cartes, vous savez, qui font le bonheur des brocanteurs et des chineurs, qui sont les cartes, des anciennes cartes scolaires qu'on peut mettre chez soi. Mais en fait, il y a plein d'autres cartes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des cartes comme des outils pour faire apparaître ce qu'on ne voit pas, des flux de population, des flux de économiques, culturels, etc. Et quand moi j'ai appris ça dans mes études, quand on découvre la carte comme un outil pour faire apparaître ce qui est invisible en fait dans à nos yeux tout situé, tout simple, tout particulier, ça devient aussi presque magique.
Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef de la revue de voyage AR comme aller-retour. Alors vous consacrez le tout dernier numéro au golfe du Morbihan, on y reviendra tout à l'heure. Je m'adresse à la voyageuse de métier. Quel rapport entretenez-vous avec la géographie ?
Mais là, tout à l'heure, j'entendais le mot de magique juste prononcé avec la carte. Et j'ai eu une chance incroyable la semaine dernière. J'étais en reportage dans le vignoble de Fronton. Ça vous parle, Ali, Fronton ?
Oui.
Oui,
oui.
Non, pas tant que ça, vous êtes de Toulouse.
Oui, mais je connais bien.
De Toulouse.
Je connais bien.
Ah bon, entre Toulouse et Montauban. Donc j'étais là en train de déguster, de découvrir l'appellation Fronton, les producteurs qui cultivent la négrette, un cépage unique au monde qui a plus de 2000 ans. Bref, j'étais en train de déguster avec des producteurs vraiment sympas et je visite le château de Valaudric. Et alors, figurez-vous que dans ce château, superbe château Renaissance avec des briques rouges, et c'est toujours habité par la famille d'Argoubet, eh bien, à l'intérieur de ce château, dans la bibliothèque, le maître des lieux me montre un trésor. Je découvre la carte des Cassini. Est-ce que vous connaissez?
Non, je ne connais pas du tout,
Cassini.
Mais ça me fait rêver déjà, non, le nom me fait rêver.
Mais parce qu'il y a des géographes avec vous, et bien figurez-vous que c'est la première carte de France géométrique et topographique, donc c'est la carte qui a été dessinée par les astronomes Cassini, père et fils. Ils ont dessiné, c'est vraiment le premier atlas de la France de 1744, et je l'avais là sous mes yeux, j'avais la deuxième édition. Alors c'est trois livres énormes, ils font au moins 10 kilos chacun. Un mètre quand on ouvre la carte des Cassini, c'est vraiment l'ancêtre des cartes Michelin et même de Google Maps, quoi. Et là, je voyais cette carte de France, en fait, elle a servi à constituer, par les révolutionnaires, après, elle a servi de base à la carte, à dessiner justement les départements dont vous parliez tout à l'heure et qu'on apprenait par cœur. Et donc, c'était incroyable d'avoir ça, enfin, datée de 1744, elle était dans ce château de Valaudric, dans le Frontonnet.
Louise Cunéo, on retrouve une reproduction de cette carte des Cassini dans votre hors-série.
Absolument. En fait, on a retracé un peu l'histoire de la cartographie en partant évidemment de la famille Cassini qui a conçu donc toute la première cartographie de la France, en effet. Et en fait, on a pris par exemple un zoom sur l'Aulne-Saunier et on est remonté depuis Cassini jusqu'à aujourd'hui, parce que vous savez, sur le portail de l'IGN Géoportail, vous avez gratuitement toute la cartographie de la France en accès libre. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir l'histoire de la région que vous aimez bien ou de là où vous habitez depuis Cassini.
Perrine Michon, on vous a retrouvé. Vous vouliez répondre aux souvenirs un peu rébarbatifs, souvenirs scolaires rébarbatifs de ces cours de géographie que Guillemette Odissino a mal vécu.
Je me suis perdue dans les méandres.
Disons que je n'ai pas connu l'histoire d'amour quoi, avec la géographie à ce moment-là.
Et mais vous n'êtes pas la seule et c'est un peu ce qui nous désole, nous géographes, parce que voilà, on estime que, comme Louis Cuneo le montre très bien dans ce hors-série du Point, il y a vraiment un lien presque d'amour qu'on peut développer, entretenir avec la géographie. Et donc, ce que je disais, c'est que dans ce couple histoire-géo, hein, voilà, il y a souvent une dominante de l'histoire qui est tout à fait intéressante, hein, mais que la géographie a un peu le parent pauvre. Enfin voilà, c'est pas la parité parfaite dans ce couple. Et donc, avec la Société de géographie, donc qui fête ses 200 ans cette année, hein, qui a été créée l'année de la mort de Napoléon, qui aurait aimé créer une société de ce genre, eh bien, nous proposons, nous interpellons les pouvoirs publics, notamment l'Éducation nationale, pour repenser un peu la manière dont la géographie s'inscrit dans les programmes scolaires, comment elle est enseignée, quelle place on peut lui accorder. Et voilà, pour essayer, à une époque où il nous semble que la géographie est vraiment une boussole essentielle pour s'orienter dans le monde complexe dans lequel on vit, pour repenser un peu la place de la géographie à l'école et dans les enseignements.
Alors il y a des écrivains qui ont le don de faire aimer la géographie, comme Sylvain Tesson, donc géographe de formation.
Vous pouvez pendant des jours et des jours sillonner le pays, moissonner des centaines de kilomètres sans que le paysage ne varie d'un pouce, sans qu'il y ait la moindre variation dans la géographie. Alors que dans les calanques, c'est exactement le contraire. C'est un espace qui est extrêmement réduit, puisqu'entre Cassis et Marseille, il y a 15 kilomètres. 15 kilomètres de littoral calcaire très échancré par la mer, avec ces fameuses calanques qui sont des sortes d'indentations, des moments où la mer rentre à l'intérieur de la terre, avec des falaises. Et le paysage est tellement découpé, tellement dentelé, tellement crénelé, tellement crêtelé, qu'il suffit de faire 50 mètres, parfois même pas, parfois 10 mètres, pour que le paysage, l'architecture, le panorama et la perspective changent, mais d'une manière radicale. Et là-dessus s'ajoutent les variations dues à la lumière, à la couleur de l'air, à la couleur de la mer. Enfin, c'est-à-dire qu'on est véritablement là dans la marqueterie absolue du paysage. Et c'est ça que j'aime, moi, après être revenu de l'uniformité un peu angoissante des steppes centrales.
Sylvain Tesson qui a contribué à réconcilier les Français avec la géographie, on vient de l'entendre dans le 5-7 de France Inter en 2014. Louis Cuneo, vous consacrez quelques pages de votre hors-série à ceux qui ont pris la plume pour restituer la substance d'un paysage. Balzac, Maupassant, Gracq...
Absolument, parce qu'on connaît, quand on parle de géographie, on parle souvent de l'écrivain Michel Bussy, qui est le géographe qui s'est converti dans le polar. Mais en fait, il y a évidemment énormément d'autres auteurs, pas que français d'ailleurs, qui ont décrit la géographie de la France. En fait, ce qu'ils ont essayé, c'est à la fois de rendre le sentiment, l'émotion qu'un lieu évoque, et en même temps dévoiler l'intimité d'un paysage, c'est aussi parfois l'imaginer, comme Proust le fait en ancrant... La recherche du temps perdu, par exemple, en Eure-et-Loir. Il utilise la géographie pour son histoire.
Éric Sibiot, l'un de vos romanciers préférés, c'est donc Simenon, l'auteur de la série des Maigret, de grands romans comme La vérité sur Bébé Donge, Lettre à mon juge, Les fantômes du Chapelier. Quel rapport Simenon entretenait-il avec le paysage français?
Alors, il faut savoir que Simenon, avant d'être vraiment célèbre pour les romans que vous venez citer, Maigret, il était journaliste et il a parcouru la France et il avait fait énormément de reportages sur la France et sur le monde. Il a été absolument partout dans le monde entier. On retrouve d'ailleurs ses reportages dans un omnibus qui s'appelle Mes apprentissages, qui est un joli mot. Et il a commencé par traverser la France par les canaux. Le Rhin, le Rhône, le canal du Midi, le canal de Bourgogne, et il a livré des reportages la plupart du temps à François, parce qu'il travaillait avec Kessel, avec Lazareff, avec des gens comme ça. Donc on peut retrouver déjà sa façon de parler du paysage français, mais chez lui il y avait une façon un peu anthropologique de parler, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas parler d'un lieu, d'une ville, d'un chemin, sans parler des gens qui y habitent aussi, en disant que ben, les choses sont liées, les paysages façonnent les hommes et les hommes façonnent les paysages, c'est un peu ça. C'est aussi ce qu'il a décrit quand il est parti à l'étranger, notamment en Afrique et évidemment aux États-Unis, puisque il a vécu 10 ans aux États-Unis et il a beaucoup écrit sur les États-Unis. Il a fait un grand reportage sur toute la côte est des États-Unis en parlant de Boston jusqu'en Floride. Et il avait décidé, à l'inverse de ces romanciers qui écrivent sur l'Amérique et un peu sur la mythologie américaine, là aussi de raconter les motels, les bars, les dîners. Donc c'est une façon de voir le monde. Ça me rappelle un petit peu les films des Frères Lumière, par exemple. Les Frères Lumière en 1895 jusqu'en 1900 envoyaient des opérateurs à travers le monde et ont raconté, ils témoignaient du monde par la géographie, par les mouvements des gens, par les mouvements des lieux, et c'est exactement ce que faisait Simenon.
Perrine Michon, sur les liens entre les géographes et les écrivains.
Oui, alors c'est vrai que la littérature a cette puissance évocatrice qui permet, comme vous le disiez très bien, de faire sentir de manière plus sensorielle que mentale toute la multidimensionnalité des paysages. Et donc, effectivement, il y a des grands géographes, des géographes qui sont devenus de grands écrivains. On peut penser à Julien Gracq, qui était un géographe qui a beaucoup écrit sur Nantes, notamment sur les bords de Loire. Plus récemment, Louise Cunet a cité effectivement Michel Bussy, qui innerve ses romans policiers de touches géographiques, que ce soit sur les lieux ou sur les habitants de ces lieux. On peut penser aussi à Emmanuel Ruben, qui s'est promené le long du Danube et qui en a fait l'objet en vélo et qui en a fait l'objet d'un livre. Et puis, il y a des écrivains qui ne sont pas des géographes académiques, mais qui ont cette sensibilité, ce regard dont je parlais tout à l'heure, et qui font vivre et se déployer sous nos yeux de lecteurs des paysages. On peut penser à Marcel Pagnol, j'entendais là que voilà, La gloire de mon père était diffusée bientôt. On peut penser à Jean Giono, et puis là aussi des gens comme Éric Orsenna, qui ne sont pas des géographes académiques, ont aussi un discours, une plume qui parle beaucoup de géographie.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, et il faut aussi aller du côté de la culture populaire, voire même des jeux vidéo, puisque les cartes sont très présentes. On pense à Game of Thrones, on pense au Seigneur des Anneaux, qui sont aussi des aventures géographiques, et un jeu qui colle nos enfants aux écrans, Fortnite, c'est un jeu aussi qui se passe sur des maps qui, à chaque fois, varient des paysages, même des climats. Et donc, il y a une forme aussi, effectivement, de géographie imaginaire, présente, très présente, même sur des nouveaux supports.
Allez, racontez-nous votre géographie personnelle au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter. Racontez-nous également votre goût pour les cartes géographiques et topographiques. Alors, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la première conférence en ligne France Inter consacrée à la puissance des liens avec Boris Cyrulnik et la professeure de psychologie Rebecca Shankland. Vous pourrez poser vos questions sur la question des liens à l'issue de cette conférence, une conférence gratuite mardi prochain à 19h. Inscription obligatoire sur le site maisondelaradio.fr. Allez, je vous propose de voyager un peu en écoutant Chico Buarque.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando atrás. Essa moça tá decidida, se não perder, me dá. Ela só sangue escondida, que é pra ninguém reparar. Eu contigo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Faço de um concerto de flauta e não me desconto emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito. Ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? E do lado esquerdo do peito. olhos profundos, é linda, me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá, de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela, eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito. Ela só me guarda despeito. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Do lado esquerdo do peito, no fundo é linda, me quer bem essa moça.
Chico Buarque interprétait « Essa moçata diferente ».
Bon, alors maintenant, vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie.
Grand bien vous fasse.
Les gens qui n'auront pas leur cahier de géographie. Donc, avec un de chez monsieur.
Sur France Inter.
10h31, grand bien vous fasse loisir. Et on s'intéresse ce matin au plaisir de la géographie française avec leur série Du Point en kiosque en ce moment. Beaucoup de messages, nos comiques qui nous écrivent « J'ai adoré mon année de 5e. Monsieur Merlin nous faisait recopier les cartes avec un calque quadrille d'un centimètre sur un centimètre. Je sens que ça passionne Guillemette Odissino. Pour les agrandir, c'était ultra reposant. Gabi nous dit « C'est navrant d'entendre beaucoup de personnes nommer leur département par leur numéro et non par leur si beau nom évocateur de nature, de relief ou d'histoire. » Dominique dans l'Ariège nous écrit « Quand je lis un roman historique, j'ai toujours une carte de géographie avec, ça m'enrichit beaucoup. » À ce titre, écoutons Bernard Pivot à propos de son goût des cartes.
Est-ce qu'il vous arrive de vous pencher sur la lecture d'une carte ?
Eh oui, quand je suis avec ma femme en voiture, elle conduit, et donc je regarde la carte.
Oui.
Et c'est
et
pas facile. Pas facile. Alors, vous savez, je suis comme ces Français qui tournent la carte en disant tiens, ça ira mieux en la tournant de ce côté, je vous dirai mieux. Vous savez comment on fait.
Alors, vous lisez mal les cartes, est-ce que vous rêvez sur une carte?
Ah oui, alors là, voilà, je lis mal les cartes, mais alors je rêve beaucoup. Une carte m'incite pas du tout à voyager, moi elle m'incite à rêver. Je m'imagine d'ailleurs pas voyageant, je m'imagine plutôt déjà rendu dans le lieu dont j'ai la carte sous les yeux et me demandant si devant moi il y a des plaines ou des montagnes, des rivières ou des ruisseaux, des vaches ou des zèbres, des ours ou des antilopes. Et c'est plutôt un rêve un peu fou. Les cartes, parce que comme je ne sais pas bien les lire, elles m'incitent à la rêverie ou au dévergondage de l'esprit, alors que les gens qui savent très bien lire les cartes se repèrent immédiatement et ont une vue réaliste des choses et des lieux.
Bernard Pivot sur France Culture en décembre 1991. Périne Michon, la géographe que vous êtes, fantasme, rêve également en regardant, en lisant des cartes.
Ben oui, complètement. Je rejoins tout à fait ce que dit Bernard Pivot, mais qui finalement est une facette de la géographie aussi, hein, qui est un savoir qui se nourrit aussi beaucoup d'imaginaire et qui l'enrichit. Effectivement, pendant le confinement, qui pour un géographe est peut-être quand même la chose la pire qu'on puisse lui faire, donc c'est-à-dire qu'on voilà, on ne peut plus avoir accès à ce terrain qui est source d'énormément d'informations. Eh bien, la carte, c'est aussi une manière de se déplacer, mais d'une autre manière, avec toute la richesse d'informations qu'on peut y trouver, que ce soit sur les formes du relief, sur les modes d'organisation de l'habitat, sur tout un tas de strates plus ou moins anciennes qui s'empilent, qui se sédimentent les unes sur les autres. Donc oui, ce sont des très beaux objets et qui font vraiment voyager et qui sont une ligne d'information réaliste, comme disait Bernard Pivot. Il y a vraiment ce double aspect de réalité et d'imaginaire qui s'imbriquent l'un dans l'autre.
Éric Libiot.
Il existe d'ailleurs un livre absolument magnifique qui s'appelle L'Atlas des cartes imaginaires.
Oui.
Qui est un livre formidable. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec les cartes, c'est un paradoxe, et je ne voudrais pas marcher sur les plates-bandes de Thibault, mais c'est qu'on peut se perdre avec une carte. Ça qui est, on se perd avec une carte, parce qu'on rate toujours le petit chemin à droite, la petite route à gauche, etc. Alors qu'un GPS, on ne se perd pas. On suit la ligne bleue sur le GPS, et puis on découvre rien. rien, alors qu'avec une carte qui est paradoxalement l'objet avec lequel on doit se faire guider, eh bien on se perd tout le temps et on se retrouve et on retrouve sur les pieds, on retrouve des chemins qu'on n'a pas imaginés, on reprend une route qu'on n'avait même pas vue, et c'est ce qui est absolument magnifique. Voilà, c'est le rêve physique quand on se perd avec une carte, ça qui est très beau, je trouve.
Guillemette Odissino.
Puis une carte, c'est l'objet en soi, c'est-à-dire cette carte, elle contient tous les souvenirs de voyage, souvent qu'on a fait avec nos parents, puisque les cartes Michelin dataient de ça. On déployait la carte dans la voiture. Souvent même, quand on revoit ces vieilles cartes, on pense à l'odeur de la voiture quand on partait en vacances. Et ce sont des cartes en plus qui sont des objets aussi désobéissants, capricieux, puisque Bernard Pivot, il ne sait pas lire des cartes. Moi, je ne sais pas les plier. Enfin, les Personne ne sait replier les cartes routières. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que chaque carte dans chaque famille a une forme différente après le voyage. Ça devient des sculptures quasiment intimes.
On peut aussi avoir des souvenirs sur Google Maps, par exemple, parce qu'on peut mettre des petites étoiles, des petits drapeaux pour se souvenir d'où on a été, quel restaurant on a visité. Et c'est vrai qu'on a encore ça aujourd'hui dans les versions modernes.
Alors, Louise Cunéo-Dupont, vous avez rencontré les AS de l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. Plus de 2 millions de cartes vendues chaque année et 1850 références de cartes.
Mais oui, absolument, c'est très impressionnant parce qu'ils produisent à la fois des cartes papier et des cartes pour des applis pour se géolocaliser. Les deux ont un intérêt hein, d'ailleurs. Les cartes papier, ça permet d'avoir une vue d'ensemble d'un territoire en un coup d'œil et on peut repérer les éléments sur lesquels on veut aller. Et les applis, évidemment, c'est plus pratique pour se géolocaliser. Moi, ce qui m'a fasciné avec les AS de l'IGN, comme on les a appelés effectivement, c'est toute la... voilà, ils se servent à la fois des gens qui sont sur le terrain. Vous, par exemple, si vous allez vous promener et que vous constatez que quelque chose n'est pas sur la carte, vous pouvez tout à fait leur remonter. Il y a peu de chances, ceci dit, que ce ne soit pas déjà remonté parce qu'effectivement, elles sont remises à jour tous les 3 ans. Quoi.
Et comment lire une carte?
Eh ben, d'abord en regardant la légende, en vérifiant qu'on s'est bien attaché à la bonne échelle de la carte, parce qu'évidemment on ne prend pas une carte dans la même échelle selon qu'on veut se déplacer à pied ou en voiture. Et puis il faut regarder les courbes de niveau, parce qu'évidemment ça va nous donner une information sur le relief. Il faut regarder les cours d'eau, il faut regarder tout l'ensemble de la carte pour vraiment s'imprégner du territoire.
Alors apprivoiser une carte, c'est ludique.